Merci beaucoup pour votre soutien, votre amour et puis pour les gens qui se sont permis de venir hier à cette conférence. Merci du privilège que l'on s'accorde les uns les autres à prendre soin les uns des autres. On devient un reflet de Christ dans notre communauté, dans notre Église, dans cette société. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à être à son image. Je vais juste prendre quelques instants pour prier, si vous me le permettez. Seigneur notre Dieu, on voudrait que ta parole ce matin puisse nous transformer. On veut se laisser toucher, Seigneur, par tes Écritures. Et on voudrait voir Christ se former en nous pour être un reflet de ta gloire. Seigneur, bénis le temps que nous aurons autour de ta parole. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Je vous inviterai à tourner, si vous avez une Bible avec vous, dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, les premiers 11 versets. Nous avons eu un très bon temps hier avec cette conférence et ce qui a été partagé au niveau de l'amertume, le pardon et comment connecter au niveau du cœur du conjoint. Il y a certains éléments que je vais reprendre dans ce message ce matin et en le mettant en application avec les membres de l'Église. Comment se les appliquer les uns pour les autres. Philippiens, c'est l'apôtre Paul ici qui parle au chapitre 2. Le titre du passage, est, je suis dans la version sommaire, qui mentionne « Aimer à l'aide du Christ ». Le verset 1 commence comme ceci. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde ses propres qualités, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il y a quelques années, un de mes copains m'avait mentionné ce que ses amis avaient fait lorsqu'il était tout jeune. Souvent, les petits gars font des mauvais coups qui ne sont pas toujours très, très agréables et puis ils jouent des tours. Puis, ses amis avaient pris, à un moment donné, deux chats, les avaient attachés par la queue et les avaient mis sur la corde à linge. Je vous laisse vous imaginer le reste. Ils ont des griffes. Il faut qu'ils se tiennent quelque part. Ils se tenaient sur l'autre. Ça se déchiquetait. Des fois, je conseille des couples qui sont beaucoup déchiquetés, déchirés. Je pense à ce couple qui était sous grande tension, qui était venu me voir, et il ne pouvait plus parler parce qu'ils interprétaient trop mal ce que l'autre disait. Fait que la communication n'était pas juste ralentie, elle était entièrement coupée. On ne parle plus parce que peu importe ce que je vais dire, ça va revirer contre moi et on se déchire l'un l'autre. Fait qu'ils se sont retrouvés dans mon bureau. Le lundi, l'atmosphère était tendue. C'était froid. Mardi, il y a une espérance qui se créait. Mercredi, cet homme venait de connecter avec le cœur de sa femme. Jeudi, c'est cette femme qui connectait avec le cœur de cet homme. Et vendredi, ils revenaient en amour comme au moment de leur fréquentation, 20 ans plus tôt. Qu'est-ce qui s'était passé entre lundi et vendredi? J'étais voir dans leur cœur ce qu'ils avaient expérimenté dans leur vie depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai cherché la cause des problèmes émotionnels et des problèmes spirituels, les différents péchés dans leur vie. Ils avaient toutes les deux vécu beaucoup de rejet. Puis on a amené la solution du pardon pour l'appliquer. La confession, puis la connexion émotionnelle. Fait qu'ils apprenaient à connecter tout à coup cœur à cœur dans leur relation. Fait quand ils ont découvert ça, leurs yeux ont commencé à s'illuminer. Et là, l'espérance revenait. Parce qu'ils voyaient que c'était possible, ils se mettaient à le vivre entre eux. Fait qu'ils apprenaient à ne pas focusser sur leur douleur, mais sur le besoin de l'autre. Et tout à coup, à prendre soin de l'autre et s'apercevoir qu'ils étaient capables de prendre soin de l'autre eux-mêmes. Fait qu'ils expérimentaient devant moi une relation émotionnelle qu'ils ne s'étaient jamais permis de vivre. Fait qu'ils avaient comme devoir de vérifier le cœur de l'autre à tous les 12 heures, dans quel état qu'il était rendu. Puis d'en prendre soin et de prendre soin de la douleur de l'autre. Fait qu'ils étaient en train de devenir un même cœur, une même pensée, un même amour, comme on vient de lire dans le texte de Philippiens. Comme il est dit dans le chapitre 5 du livre d'Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, Jésus prend soin et nourrit l'Église. Puis il est demandé à l'homme de faire pareil envers sa femme. Prendre soin et nourrir. Puis comme son mari commençait justement à prendre soin de son cœur, cette dame devenait tout à coup en mesure de faire pareil puis de prendre soin de son mari, de ses douleurs et de ses blessures. Fait qu'elle pouvait l'emmener à Dieu pour qu'il reçoive lui aussi pardon et guérison au niveau de ses blessures les plus profondes qu'il traînait depuis des années. Fait que je leur montrais comment faire. Pour faire ça, ils ont eu besoin de connecter émotionnellement en reconnaissant leur faiblesse puis en se demandant pardon l'un l'autre avant. C'était essentiel. Fait qu'ils devaient arrêter de regarder leur douleur et focusser sur les besoins de l'autre. Ça, c'est mon rôle en tant que berger, en tant que facilitateur pour les emmener jusqu'à ce point-là, pour leur permettre de vivre cette délivrance et cette expérience dans une relation intime avec Jésus-Christ. Et ensuite, je les présente à Jésus et je vois l'action du Saint-Esprit sur eux devant mes yeux. C'est un plaisir. Quand on était au Colorado en train de se former avec John Wigger, on était juste ébahis de voir l'action de Dieu. Et lui-même, il était dit, « Toutes les semaines, je vois des miracles qui se produisent dans le cœur de ces couples. » Et c'est ce que j'ai l'occasion de pouvoir assister. Fait que Jésus vient restaurer leur cœur brisé et il les connecte l'un à l'autre avec lui-même. Puis après ça, on va nettoyer les péchés dans leur vie qui viennent mettre drôlement des embûches dans leur relation. On a lu tantôt dans cet épître de Philippiens, dans les versets 2 et 3, au tout début, où Paul disait « Ayez un même amour ». Dans nos relations avec les gens, c'est tellement facile de prendre position très souvent, même au sein d'une église ou d'une communauté, on prend position sans réfléchir. Puis tellement difficile de le faire avec un bon jugement. Si nos intérêts sont brimés ou si on a été froissé, on est habituellement prompt à réagir. On a du sang latin, nous les Québécois. On est encore explosifs. On est vif. Fait qu'on veut défendre notre point de vue. Et très souvent, il y a des raisons pour ça. Pourquoi qu'on veut tant défendre notre point de vue? Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à coordonner des camps de vacances pour les enfants, j'ai fait ça pendant 8 ans, il est arrivé quelque chose une de ces années-là. Il y avait eu quelques cuisiniers du camp qui s'étaient succédés. Puis il y en avait un, à un moment donné, qui avait pris la charge de la cuisine, s'est installé dans le camp. Et puis, cet homme avait un peu de difficulté dans ses relations avec les gens. Fait qu'il était un peu blessant dans ses propos lorsqu'il parlait. Puis il était direct et cru. Puis il manquait de tact. Fait que lui et sa femme se donnaient corps et âme pour l'avancement de ce camp de vacances chrétien. Fait que je le voyais. Il croyait à ce qu'il faisait. Fait que c'est un bon gars, un cœur sensible, qui aimait Dieu. Mais son approche blessait. Puis il y avait des gens dans l'administration du camp, puis dans son entourage, qui l'aimaient. Mais il y avait aussi des gens qui, quand ils venaient pour travailler, pour aider dans le camp, et qui étaient en contact avec lui, ils ne l'aimaient pas, ce cuisinier. Fait que son approche les brusquait. La façon qu'il était brusquait les gens. Ils ne pouvaient pas supporter qu'on les gratte, parce qu'ils grattaient tout le monde. Ils ne pouvaient pas supporter qu'on les gratte quand ils étaient en présence de cet homme. Fait que les gens s'éloignaient de cet homme. En tant que coordonnateur, je passais tout l'été dans ce camp de vacances. Et au début, je voyais les dynamiques, puis je fermais les yeux. Je ne voulais pas confronter la patate chaude. Je m'éloignais. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, « C'est assez, Daniel, et vas-y, parle, ouvre la bouche. » Fait que je me suis assis avec cet homme et sa femme, qui prit, je pense, juste 10-15 minutes, et puis je lui ai dit, « Sais-tu comment est-ce que les gens ici te voient quand ils te côtoient, puis prennent... pense à côté de toi ou à discuter avec toi, il te voit comme un porc-épic. Quand il s'approche de toi, il te contourne pour continuer leur chemin. Cet homme ne parla pas, ni sa femme. Et sa femme est à côté, puis... elle le vivait dans son propre foyer. Et cet homme avait de la difficulté, puis quand il y avait des gens qui s'approchaient, il dressait ses pics. C'était plus fort que lui, puis si tu t'approches trop, tu vas te faire piquer. C'est ce qui ressortait. À ce moment-là, je ne réalisais pas, mais cet homme, par son comportement, parvenait à toucher la douleur déjà existante dans le cœur de bien des gens. Il avait le tour de toucher la douleur des gens. Et ça, sans qu'il s'en rende compte lui-même. Puis lui, il disait, il trouvait que les gens qui venaient travailler au camp ont des problèmes. Ils viennent pour aider, faire du bénévolat. Puis c'est des gens pleins de problèmes qui viennent ici pour aider. Puis s'ils ne sont pas contents, mais qu'ils s'en aillent, parce que le camp ici, c'est une œuvre chrétienne. Si tu n'es pas prête à être un bon disciple du Seigneur, mais reste pas ici. Puis c'est comme ça qu'ils pensaient. Le camp a une vision, puis il faut avancer. Il faut que ça se développe. Ses intentions étaient bonnes, mais très mal appliquées. Et lui-même vivait des choses difficiles dans sa propre vie. Ce que je voudrais dire est important. 95% de nos problèmes relationnels proviennent de nos blessures du passé non réglées. Puis on les projette constamment. Et très souvent, avant même qu'on ait rencontré le Seigneur dans notre vie, avant notre conversion, et on amène ça dans notre bagage, on amène ça dans notre mariage, on amène ça dans notre vie chrétienne, on amène ça partout, dans notre foyer, dans notre famille. Au moment de notre conversion, nous avons été libérés. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, on était libérés de la pénalité qui reposait sur nous. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui m'était réservé est tombé sur Jésus-Christ à la croix. Puis j'ai été libéré de la condamnation et de tous mes péchés devant Dieu. J'ai reçu une capacité de pardonner et d'aimer les autres. Puis toutes les fois par après que j'ai descendu au niveau de mon cœur, et que j'ai pardonné à ceux qui m'avaient fait du mal, je libérais la douleur émotionnelle qui était prisonnière en moi. Puis il y avait une liberté, puis je pouvais reprendre une relation avec ces gens. Certaines douleurs peuvent ne jamais avoir été libérées parce qu'on n'y a pas fait face, ou parce que j'ai pardonné à un niveau juste cérébral, intellectuel, avec la tête seulement. Puis je n'ai pas été capable de descendre au niveau de mon cœur en pardonnant pour refaire face à cette douleur puis l'emmener devant Dieu afin qu'elle soit libérée, cette douleur, parce qu'elle me fait réagir lorsque quelqu'un met le doigt dessus. Parce que soit que la blessure était trop profonde ou soit que je l'ai volontairement refoulée pour pas y faire face. Fait que j'ai peut-être besoin d'être des fois guidé dans ce processus. Ça fait qu'on rencontre des fois des gens dans l'église, dans la famille, au travail. Puis lorsqu'ils touchent à notre douleur intérieure, sans le savoir, ça nous place en position d'inconfort puis de rejet. Fait qu'on se sent jugé, pas compris, pas aimé, pas accepté, pas respecté. Parce que c'est ce que nous vivons à l'intérieur dans notre vie personnelle. Puis il se retrouve avec nous dans une relation similaire à ce que nous avons déjà vécu dans le passé, puis ça ranime. C'est pas leur faute, mais ça ranime quelque chose qui n'a pas été réglé. On le traîne, on ne s'en occupe pas, on met ça de côté. Des fois, on l'a même oublié, en plus. Puis à un moment donné, dans notre vie, une guérison s'impose. Sinon, ça va tout le temps revenir et revenir. Et le pire, c'est que des fois, ça grandit, cette affaire-là, cette bébête-là. Et je risque de rencontrer des porcs-épics qui vont me faire sortir de mes gonds, qui vont me mettre hors de moi et m'attrister tout au long de ma vie. Espérant que je ne rencontre pas trop de porcs-épics en même temps. L'apôtre Paul a le souci que nous soyons purs et irréprochables dans notre service et principalement dans nos relations les uns avec les autres. Regardez ce qu'il dit dans Philippiens. Ceux qui ont gardé leur Bible ouverte, je vais juste lire un verset plus loin dans chapitre 4. Au verset 2, il dit, et là il s'adresse à une situation bien particulière entre deux femmes. Il y a quelque chose qui est arrivé. Je recommande à Évodie, ce sont des noms de cette époque, je recommande à Évodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Il leur recommandait de vivre en harmonie à ces deux femmes. Deux chrétiennes qui ont déjà travaillé avec Paul et qui maintenant sont opposées l'une à l'autre par un différend. Un différend qui est assez grave parce que Paul, qui est à 1000 kilomètres de là, ils n'ont pas d'Internet, ils n'ont pas de TV, ils n'ont pas de téléphone, il n'y a pas de courriel, il n'y a rien. Il est à 1000 kilomètres de là, Paul, et il en entend parler de ce différend qui se passe dans cette église entre ces deux dames, qui sont deux servantes du Seigneur, consacrées, avec lesquelles il a déjà travaillé. Paul entend parler de ce différend entre eux autres. Puis il les encourage à se réconcilier. Il encourage les responsables de cette église à les aider à se réconcilier. Le verset 3 va dire, « Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide. Ne les laisse pas dans cette situation. Ne les laisse pas aller dégénérer la situation. » L'amour entre les chrétiens est le lien le plus important. Et il doit être préservé. Il va toujours y avoir des différends, des opinions, puis des façons différentes de voir les choses. Ça va toujours exister. Mais si l'amour prend une débâcle parce qu'on n'est pas capable de respecter nos différends, on est en danger. Les relations valent toujours la peine d'être entretenues, nourries et améliorées, et même restaurées. Les relations valent la peine. Dieu n'est pas mort, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour des projets, il est mort pour des relations. Ce que Dieu attend de nous durant toute notre vie, c'est d'apprendre à aimer. Dieu souhaite vraiment qu'on accorde une grande importance aux relations. Plus notre capacité à nous entendre avec les autres fait partie de notre vie, plus ça démontre notre maturité spirituel. On peut se dire, ben moi j'ai de l'âge, j'en ai vu des choses, je comprends les gens, j'en ai vu du monde passer, et je sais comment parler et m'entendre avec les autres. Pas tout le temps. C'est pas toujours la réalité. Ça dépend si Dieu a fait une guérison dans notre vie. On se croit mature dans les relations avec les autres et souvent nos conversations révèlent le contraire. Et les autres, si on leur demanderait leur opinion de ce qu'ils pensent de nous lorsqu'on discute, auraient peut-être un autre point de vue très différent de ce que nous croyons sur nous-mêmes. Dieu voudrait nous voir plus sensibles aux autres et moins préoccupés à nos propres opinions quand on discute. Vous savez, la langue peut faire des grands ravages. La peau, tout ça, va dire, elle est difficile à maîtriser, puis on doit travailler sur celle-là. Très souvent, on discute avec quelqu'un, puis comme on est des gens qui sont très informés dans notre société aujourd'hui occidentale, on est très informés dans notre société, puis on se forge des opinions assez rapidement, fait qu'on prend des informations ici et là, on met ça ensemble, puis on se fait une idée de ce qui nous semble la réalité, que ce soit au niveau politique, l'éducation, la santé, les affaires, les sports, ou les dernières nouvelles de l'heure, ou même au niveau théologique. On est dans une église, on va parler au niveau théologique, la vie chrétienne. Fait qu'on se forme une idée, une opinion de tout ce qui nous entoure. Est-ce que je suis parvenu à aimer de manière à faire sentir à l'autre que je l'aime vraiment? Que je l'aime comme Christ l'aime? Que je l'aime comme Christ m'aime? Quand je suis en relation avec les autres. J'ai beau avoir plusieurs années d'évangile, ça fait plusieurs années que je connais le Seigneur, plusieurs années d'évangile derrière moi. Mes opinions et ce que je pense, très souvent, passent bien avant les autres, bien avant les relations. Je m'aime et j'aime un peu les autres quand ils me ressemblent. Ça, c'est notre réalité avec laquelle on combat. Pour parvenir à vivre en accord avec les autres, Paul va nous dire que ce qui doit dominer nos pensées quand on est ensemble, c'est l'amour. Qui doit dominer mes pensées quand je suis en relation, que je discute de la pluie, du beau temps, d'une relation plus profonde, de quoi que ce soit avec les gens. On doit se dire, je veux lui démontrer de l'amour. C'est mon motivateur. Avec les gens qu'on sent bien, ça ne nous vient pas à l'esprit. On ne se dit pas ça, naturellement. Ça se fait tout seul. Mais avec d'autres, il faut se le dire. Des fois, j'écoute les gens parler entre eux. Examinez des fois juste deux personnes qui se parlent. Une commence à parler, puis l'autre parle. Fait qu'elle parle de ce qu'elle aime, les choses qu'elle a faites. Puis l'autre parle aussi de ce qu'il aime, de ce qu'il fait. Puis l'autre reparle encore de ce qu'il aime. Puis chacun parle. On est en train de monologuer. On parle de nous-mêmes, ce qu'on veut faire, ce qu'on projette, ce qu'on rêve. On ne communique pas. On ne s'intéresse pas à ce que l'autre dit. Puis, ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il a été? Non, on parle de nous. Mi, 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 mi. C'est intéressant. Puis si l'autre va trop prendre, tirer la couverte, non. Puis là, c'est vraiment étrange. On a besoin de pouvoir. Si la plupart du temps, les conversations, des fois, tournent au vinaigre quand on parle avec les gens, il se peut que l'amour ne soit pas ce qui est le plus important pour moi dans une amitié. J'ai d'autres intérêts. J'ai peut-être juste besoin de parler, vider mon sac, ou de m'affirmer, ou encore de montrer que je connais des choses, ou de le dire aux autres quoi faire. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me drive, qui me motive. Mais ce n'est pas la personne devant moi qui est la plus importante en ce moment, quand je fais ça. C'est ce que je dis qu'il l'est. Moi, je sais, jusqu'à preuve du contraire, j'ai raison dans ce que je suis en train d'affirmer, de défendre et de dire. Et tu ne me diras pas que je n'ai pas raison. Mais je vais te le prouver, j'ai des preuves à l'appui. On argumente. À ce moment-là, mon focus n'est plus sur l'amour du prochain, mais sur la défense de mes intérêts personnels. Je ne veux pas paraître pour quelqu'un qui n'est pas au courant ou qui ne sait pas grand-chose ou qui ne comprend pas la vie chrétienne. Donc, je vais défendre mon point de vue, mon opinion a de la valeur. Puis je veux qu'on le reconnaisse quand je parle. C'est tout. Mais à quel prix je le fais? Puis on va y mettre de l'emphase. On est des latins d'origine. Fait qu'on va y mettre de l'emphase. Puis on va chercher un peu à écraser, à mettre une pression. On veut que l'autre puisse bien comprendre. On va défendre notre point de vue. Ça affecte la relation. Très souvent. Et dans quel état on va laisser la relation lorsque la discussion, après 15 minutes, 40 minutes, une heure, est terminée? Vous savez, la plupart de toutes les guerres ont été déclarées à cause de deux personnes qui ne s'entendaient pas, deux dirigeants de pays, deux présidents, deux forces où il y a des représentants, puis non, on ne s'accorde pas et on envoie une armée pour écraser l'autre, pour, c'est notre idée qui va passer. C'est ce que je veux, moi je veux ton territoire parce que c'est important, peu importe. Où on veut que ça se passe comme ça, qu'on ait telle vision de la vie. On reste sur nos positions. Et quand on reste sur nos positions et qu'on cherche à gagner notre point de vue, en montrant à l'autre par tous les moyens qu'il n'a pas raison, on est sans savoir en position de refroidir une relation pour très longtemps. Parce que l'opinion est tellement importante, c'est pas important à la personne. Fait que notre opinion est tellement importante que tout est focusé là-dessus. Puis là, on a touché, blessé, rejeté. Puis là, c'est comme pas important. On focus au mauvais endroit. On n'est certainement pas en train de faire ce que Christ ferait à notre place dans cette discussion. On fait l'inverse de ce qui devrait être fait. Regardez où ça peut aller. On a un autre exemple dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul était très embarrassé lorsqu'il en parle dans cette épître dans Corinthiens, avec les membres de cette église qui formaient des clans au sein même de l'église, des clans opposés les uns envers les autres, au point où ils s'emmenaient et se traînaient en justice devant les tribunaux. Ça, c'est il y a 2000 ans dans une église à Corinthe. Ils se traînaient dans les tribunaux avec des opinions différentes. C'était une situation extrême, mais ça commence par des points de vue qui sont différents. J'ai raison et tu as tort. Puis je vais te le prouver que tu as tort, puis tu vas comprendre. Paul les encourageait à vivre en harmonie les uns avec les autres, de venir prendre soin, de se mettre à la place de l'autre, chercher ses intérêts, ses qualités. C'est ce que Christ faisait, c'est ce qu'il nous incite à faire. C'est ce qu'il s'attend de voir, parce que c'est l'amour qui va toucher l'autre. Comment je peux faire pour construire des relations avec des gens qui pensent différemment de moi? Parce qu'il y en a plein autour de moi. Je me pose la question, est-ce que pour lui c'est important qu'il ait raison quand on est en train de discuter? Ne vous posez pas la question, est-ce que c'est important ce que je dis? Parce que votre réponse va être, oui, c'est très important ce que je dis. Ce n'est pas la question à me poser. Mais est-ce que c'est important pour lui d'avoir raison? Vous avez passé votre idée, il l'a rejetée, mais elle va mijoter dans sa tête et faire son chemin, en temps et lieu. Si c'est si important que ça, elle va faire du chemin dans la tête de l'autre. Mais vous, ici, vous avez démontré une très grande maturité puis une capacité de mettre votre opinion de côté après qu'elle a été rejetée. Et ça, sans argumenter constamment. C'est l'amour qui vous dirige maintenant. Et vous décidez d'aimer cette personne. La relation va changer. Vous primez la relation. Est en primeur. Elle passe en premier. C'est pas ce que je veux. Je pense que je décide. Et la façon que je vois la vie, qui est primordiale quand je discute avec toi, c'est toi. Je veux prendre soin de toi. Tu m'intéresses. J'ai deux opinions qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les tiennes. Tu as une valeur pour moi. Même si on passe juste 15 minutes ensemble, je t'apprécie. L'autre le voit, le sent. Il veut revenir jaser avec nous parce qu'il voit qu'il peut discuter avec nous, échanger. On construit. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont capables de faire ça. Mais c'est tous les chrétiens qui sont appelés à faire cela. C'est ce que Dieu nous incite à faire. Paul va dire, vivez en harmonie les uns avec les autres, malgré vos différences. Exerce-toi à aimer les gens, même s'ils argumentent sur ton opinion, sur ton point de vue. La langue n'est pas facile à maîtriser, puis elle se défend, puis elle va se vanter. Puis elle défend très bien nos pensées. Notre langue a la capacité de défendre bien nos pensées, sans se soucier du dégât que ça peut faire autour de nous. Laissons-la pas faire, parce qu'on peut regretter amèrement ce qui va être dit. Je pense tout à coup à cet exemple de... Au 18e siècle, il y avait une femme qui était voir son pasteur et elle avait dit... Elle avait répandu sur le dos d'une personne à d'autres gens. Elle avait fait la calomnie. Elle avait dit des choses qui n'étaient pas correctes. Puis elle a dit, Dieu me convainc, j'ai mal fait. J'ai été voir cette personne, j'ai demandé pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer la situation? Fait que son pasteur, c'est une histoire vécue, hein? Son pasteur le prit. Il était dans un presbytère. Le pasteur est rentré dans sa maison, dans son presbytère. Il était chercher un oreiller. Il a pris cette dame, puis il est monté en haut. C'était l'ancienne église protestante. Il est monté jusqu'au clocher avec cette dame, avec l'oreiller dans les mains, l'oreiller de plume. Il a ouvert les portes devant le clocher, en haut, dans le pignon. Puis là, ce qu'il a fait, il a déchiré l'oreiller. Il l'a coupé, puis il a pris le sac, il a pris l'oreiller, puis il a secoué ça. Puis là, le vent a amené les plumes. Ça, c'est parti. Fait que là, il lui a dit, « Est-ce que tu peux aller récupérer chacune de ces plumes? » Puis la femme a dit, « C'est impossible. C'est possible de récupérer toutes ces plumes. » Fait qu'il lui a dit, « C'est la même chose avec tes paroles. » Maintenant que tes paroles sont parties, puis que tu as calomnié, tu as dit des choses méchantes sur les autres, c'est parti, aux quatre vents, puis ça va se répandre. La langue est terrible. Je dois faire attention avec ce que je vais dire. Comment je traite les autres et quel genre de relation j'entretiens? Qu'est-ce qui me motive à vouloir tant défendre mes opinions? Quel est le dommage que je peux faire? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est l'amour qui me motive quand je suis en relation avec les gens et que je défends mes positions? Les relations sont trop précieuses pour qu'on les laisse s'abîmer par des points de vue qui, 90% du temps, ne changent rien dans la vie des autres. Je défends mes idées, puis ça ne change très souvent rien dans la vie des autres. Christ est mort pour sauver des gens, pas des opinions. Il est venu sauver des gens, des relations, des gens qui vont emmener avec lui pour l'éternité. Ce n'est pas des opinions et des projets qui vont emmener avec lui pour l'éternité dans son ciel. C'est nous. Il est mort pour des personnes, pour des relations. Et ce sont ces relations sur lesquelles il veut que je mette mon attention, mon intérêt, mon amour. Quand les gens sentent que telle opinion est importante pour moi et qu'ils remarquent qu'on essaie pas de défendre tout le temps notre idée à tout prix, ça touche, les gens le remarquent. Les gens ne sont pas fous. Ils le sentent qu'on veut préserver pendant qu'on discute avec eux la relation. Parce qu'ils remarquent tout de suite la maturité en nous. Puis ils sentent que l'opinion que nous avons donnée, parce qu'on n'essaie pas de la défendre à tout prix, c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais ils voient qu'on a remarqué que leur opinion est différente et qu'on la respecte. Ils le voient. Même si on n'est pas d'accord, nous passons pour sages. La conversation continue sans détériorer la relation. C'est à ça que Dieu nous appelle, à entretenir des relations saines, de vivre en harmonie. Les gens se sentent aimés et respectés et on a le goût de revenir parler avec nous parce qu'ils savent très bien que ce que nous sommes ne va pas bloquer, on n'est pas des gens boqués, où on va s'astiner sans arrêt devant une opinion, mais que nous voulons préserver la relation avant tout. On met les gens à l'aise et libres de s'exprimer, puis d'échanger leurs idées. Et ça fait toute la différence. Et les gens le voient, le sentent. Parce qu'autant cette personne que moi, on a vécu des expériences blessantes dans notre vie, qui a forgé notre façon de voir la vie différemment. Je n'ai pas le choix de respecter cela. Patience. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il y a encore des blessures qui ne sont pas guéries dans nos propres vies personnelles. Persévérons dans les relations que Dieu nous permet d'avoir, dans un premier temps, dans nos foyers, dans notre église, dans nos familles, puis dans notre entourage, afin que Dieu soit reconnu comme vivant parmi nous et qu'il soit glorifié. Parce que la parole va nous dire qu'ils vont vous reconnaître comme étant les disciples de Jésus-Christ par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. S'ils ne voient pas cet amour les uns envers les autres, comment peuvent-ils reconnaître que Dieu est parmi vous? C'est ce que l'apôtre va nous dire. Ils ont besoin de le voir. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous avez cette capacité, par le Saint-Esprit, de laisser Christ habiter, vivre dans votre vie, pour qu'il se manifeste. Les intentions du Seigneur, c'est de se former en nous. Je termine avec cet exemple. Cet homme qui était un sculpteur, et les gens s'approchaient de lui, il pouvait prendre n'importe quel petit morceau de bois, petite bûche, et en quelques heures, avec son couteau, il sculptait des chevaux. Il sculptait un cheval, puis les gens étaient impressionnés de voir la qualité du cheval qui prenait différentes formes, dépendamment de la bûche, la forme de la bûche. Puis les gens lui demandaient, comment tu peux faire quelque chose d'aussi beau? Comment tu peux faire ça, un cheval dans une bûche comme ça? Puis le sculpteur a dit, c'est très simple. Il dit, j'enlève tout ce qui ne ressemble pas à un cheval. Puis il reste un cheval. C'est pas compliqué. Ce que Dieu veut faire dans notre vie, il veut enlever dans notre vie tout ce qui ne ressemble pas à son Fils. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'immoralité. Ça, c'est du péché. Ça, ça n'a pas rapport à ma gloire. Ça, ça ne ressemble pas à mon Fils. Il enlève durant mon vivant, du moment que je prends cette décision de servir Christ, la parole nous dit que Dieu vient pour nous sanctifier par après. Il sanctifie notre vie. Et il enlève toutes ces... tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ, pour que le caractère de Christ paraisse. Et afin que les gens puissent dire autour de nous, oui, Dieu est au milieu d'eux. Parce que je reconnais le doigt de Dieu, ça ne peut pas venir de l'homme, ça ne peut ne venir que de Dieu. Christ habite en nous. Il découvre tout à coup la bonne odeur, comme les Écritures nous disent, la bonne odeur de Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est à cela que nous sommes appelés. On va prier. Seigneur bon Père, on voudrait mettre nos vies devant toi. Seigneur, on veut pouvoir se laisser toucher, convaincre et rejoindre. On ne voudrait pas, Seigneur, que ces paroles durant cette fin de semaine soient mises de côté, parce qu'on sait que tu nous poursuis par ton amour et nous incites à se tourner vers toi, à se convertir, à mettre nos vies entre tes mains et à chercher cette guérison et entretenir les relations au sein même de notre vie de couple, de famille et d'église. Seigneur, continue cette œuvre qui a été débutée durant cette fin de semaine, afin que ton nom soit glorifié et que les gens puissent reconnaître que tu habites dans nos vies. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons, pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur puisse nous faire du bien avec ces quelques paroles.